Bonjour, bonjour à nos intervenants, bonjour à vous, cher public, qui avez choisi cette table ronde avec des gens de très bonne composition, contrairement à certains autres invités. Dans les tables rondes parallèles, mais que nous ne nommerons pas, je vous laisserai découvrir le programme, que des gens d'une grande brillance intellectuelle autour de moi aujourd'hui. Oui, voilà.
Que des barbus.
À peu près. À peu de choses près aussi. Voilà. Alors je vous les présente tout de même, s'il y a besoin. Daniel Tron, qui est docteur en littérature, spécialiste du cinéma, comme son nom l'indique, bien sûr. De Terry Gilliam, de Philippe Dick, entre autres, spécialiste du cinéma américain, principalement. Et qui a fait une thèse, je crois, sous l'égide de M. Gilles Menegaldo, c'est ça. Voilà, qui était aussi un spécialiste du cinéma que l'on rencontre souvent au Utopial. Marc Caro, qui est au départ dessinateur de bande dessinée, on peut le dire, auteur également, et qui a commis quelques œuvres cinématographiques, des courts-métrages, mais également quelques longs-métrages que vous connaissez sans doute. On parle de Dante 01, sorti il y a quelques années, mais également Delicatessen, La cité des enfants perdus, et qui s'intéresse également à ces mondes dont on va parler, les mondes reconstruits, mais également aux freaks et aux personnalités un peu déviantes. Voilà, bon, j'espère qu'on en parlera un peu. Mathieu Triclot, philosophe, spécialiste du jeu vidéo, qui a sorti un ouvrage récemment sur ce sujet, dont on parlera également, et qui est enseignant à l'université de Belfort, sauf erreur. Voilà. Et last but not least, Xavier Mauméjean, qui lui aussi est intéressé par tout ce qui touche aux étrangetés, aux bizarreries, aux personnages un peu torves et aux situations à la marge, qui a travaillé entre autres sur la figure de Elephant Man, dont deux ouvrages, enfin un ouvrage et demi puisqu'il a été réécrit, transformé, également sur les parcs d'attraction avec un très beau livre dont on parlera j'espère, qui s'appelle Lilliputia, qui parle d'un parc d'attraction à Coney Island où il n'y a que des nains, voilà, ça promet, et qui vient de sortir un ouvrage également très intéressant qui croise les mondes improbables de Walt Disney et de l'art brut, et qui s'appelle American Gothic, paru chez Alma il y a quelques mois, je vous le recommande. Moi, je viens de le terminer, et je crois qu'il est en plein dans le sujet dont on parle aujourd'hui, à savoir les mondes, non pas artificiels, mais les mondes factices, et principalement les mondes recréés, des mondes un peu utopiques, qui sont les mondes des malls, donc des centres commerciaux, apparus aux États-Unis au XXe siècle, et aujourd'hui un peu partout autour de nous. Ces malls, ces centres commerciaux qui font écho également à d'autres mondes utopiques, d'autres mondes construits, qui sont ceux des parcs d'attraction, puisque évidemment le parc d'attraction et le centre commercial ont en commun le fait de vouloir recréer une société artificielle en dehors de notre propre monde, a pour but aussi de vous garder aussi longtemps que possible dans cet environnement. Sans en sortir, c'est un environnement où vous pouvez consommer et vous divertir. C'est un monde dans un monde. C'est presque ce qu'on appelle dans la science-fiction aussi un pocket universe, un univers de poche. Ces lieux, lorsque l'on s'y rend, eh bien, on se rend compte généralement que ce sont des univers factices, artificiels mais également factices, à savoir que non seulement, enfin, ils ne nous trompent pas, je crois, ces mondes-là, mais il y a une suspension d'incrédulité qui s'opère, qui fait qu'on y adhère. Et on parlera peut-être aussi de la vision entre le projet utopique de ces lieux et leur existence aujourd'hui et le fait qu'ils fonctionnent comme temple de la consommation. Il y a pas mal de gens qui ont écrit là-dessus. Il y a entre autres un écrivain de science-fiction intéressant, J.G. Ballard, qui a travaillé sur cet ouvrage qui s'appelle Kingdom Come, je ne sais plus comment il s'appelle en français, où le monde du centre commercial est un monde, on va dire, qui est plutôt en lien avec des idées nationalistes, voire fascisantes, que je vous recommande. Non pas ces idées, mais le livre, bien sûr. Pour ces idées-là, c'est une autre table ronde à laquelle je ne vous convie pas. Voilà. On parlera peut-être aussi, bah, je vais passer la parole à nos invités, mais on parlera peut-être aussi des expositions universelles. Je vous donne deux, trois pistes avant de vous interroger, puisque les expositions universelles, depuis la fin du 19e siècle, reproduisent le monde à l'échelle d'un territoire extrêmement restreint. Évidemment, c'est une manière de montrer le pouvoir et la valeur de chaque nation, mais c'est aussi une manière de reproduire un micro-univers sur un territoire restreint. Et c'est souvent aussi une manière de se projeter dans le futur, puisque beaucoup d'expositions universelles ont le futur comme terrain d'expérimentation. Et on parlera, bien sûr, des parcs d'attractions dans la science-fiction. Il y a pas mal de choses à dire. Il y a eu quelques jolis films là-dessus, dont un film qui vient de sortir, qui s'appelle Escape from Tomorrow. Vous avez peut-être entendu parler de cela. Il est sorti il y a quelques mois. Je ne vous invite pas à le télécharger, mais il est téléchargeable. Et c'est un film indépendant, donc vous pouvez le télécharger en le payant. Hein, voilà. Et il a été intégralement tourné à la sauvette à Disney World et à Epcot. Donc c'est un film un peu fantasmatique, très étrange, qui prend le parc d'attraction comme monde, justement, qui est une miroir de notre société, miroir un peu pervers, s'il en est. Voilà, on va commencer tout de suite peut-être avec Xavier, puisque... vous avez rédigé cet ouvrage que j'ai mentionné rapidement, qui s'appelle Lilliputia, et qui est en fait qui mêle, on va dire, une société utopique et un environnement, on va dire, plutôt de freaks et de fêtes foraines.
Oui, j'ai passé 7 ans à m'intéresser à quelques lignes que j'avais découvertes dans le livre sur l'architecture américaine de Ram Koolhaas, qui consacrait un tout petit passage sur Lilliputia. Alors, Lilliputia fait partie d'un complexe qui s'appelle Dreamland, qui va être créé progressivement de 1897 à 1911, date à laquelle il est détruit par un incendie. Et bon, on pourrait en parler continuellement, donc je vais aller peut-être à ce qui fait le cœur même de mon intérêt, qui est Lilliputia. Donc Lilliputia est une... Tout ça a évidemment existé. Hein. Lilliputia est une ville qui représente Nuremberg au Moyen-Âge, mais faite à l'échelle de nains, de lilliputiens, c'est-à-dire de nains parfaits, de nains à proportion juste à l'échelle. Et donc dans cette ville, l'attraction consistait à donner une citoyenneté aux nains qui avaient été achetés ou engagés, les deux étaient possibles, dans l'Amérique et à travers l'Europe. Il y avait eu des chasseurs, des traqueurs de lilliputiens. Et ils avaient leur police, ils avaient leurs pauvres, c'est intéressant. Donc on arrivait en Amérique et on était pauvres. C'était leur tout de suite, fonction d'être pauvre dans la ville de Lilliputia. Il y avait et il y avait surtout une compagnie de pompiers qui était de pompiers nains avec des chevaux nains, puisque la voiture était tirée. Non, mais justement, c'est ça qui est génial. Ils éteignaient des vrais feux toutes les heures.
Vous venez de dire que ça a été détruit par un incendie en 1911, non?
Oui, mais l'incendie, il est, oui, voilà, ils n'étaient pas très efficaces. Mais justement, pour décupler leurs facultés, ils étaient tenus de consommer de la cocaïne. Et les dirigeants du parc encourageaient dans la population masculine une homosexualité affichée, déclarée, parce que c'était drôle, c'était le critère.
Ah oui.
Donc vous imaginez, il y a eu des vies qui ont été donc vécues d'hommes parlant à peine l'anglais, débarquant pour être pompiers, cocaïnomane, homosexuel, éteignant un incendie toutes les heures. C'est un créneau quand même d'existence. Hein. Et c'est donc le roman est en grande partie sur ça. Tout ça est
il n'y avait pas vraiment besoin d'écrire un roman en fait.
Non, il n'y avait rien à faire. Non, j'ai rajouté des dit-ils de temps en temps, mais il n'y avait rien à faire. Et un autre des grands plaisirs de cette histoire, c'est que quand Sigmund Freud avec Carl Jung ont débarqué à New York en septembre 1909, ils devaient attendre une semaine pour aller faire leur conférence dans le Massachusetts, il y a eu quelqu'un, Stanley Hall, qui a eu comme brillante idée de les amener à Dreamland, et notamment à Lilliputia. Et Carl Jung a passé une très bonne après-midi, il le dit, et Freud a été physiquement malade. Il a vomi. Et dans ses papiers personnels, il raconte que c'est une expérience terrifiante parce qu'il a passé une après-midi dans un inconscient. Il était dans un inconscient affiché qui avait des
nains. En un mot ou en deux mots?
Oui, bah plus ou moins, ça dépendait du moment de l'après-midi. Il y avait des géants, des nains, des femmes pop-corn, etc. Et il a vu aussi un film, il a eu la totale. Il a vu un film qui l'a aussi rendu malade. Alors, non pas le contenu, parce qu'on l'ignore, mais le fait même que des images défilent, qu'on puisse mécaniser un rêve. Et bon, tout ça fait que... Alors, on pourrait en parler pendant des heures, mais il y a aussi... il devait y avoir un malin à New York qui emmenait tout le monde à l'Illipucia. Il y a eu aussi la lettre de Maxime Gorky qui revient outré, qui retourne en Russie en disant que c'est abominable, etc. Bon, enfin, et tout ça est vrai. Et bon, là, c'est sur le mode de la plaisanterie, mais Nuremberg, camp d'amusement, on pourrait parler de Luna Park. Alors, dans le Dreamland, dans le Luna Park, il y avait par contre là, des acteurs engagés pour leur beauté et leur blondeur. Donc, camp d'amusement, un camp d'amusement, d'internement, Nuremberg, ça fait beaucoup. Et je pense que ce parc d'attractions est en grande partie le laboratoire du XXe siècle.
Bien. Marc Caro, ça vous amuse, ça, les nains sodomites cocaïnomanes, apparemment. Mais non, pour être plus sérieux, votre univers, il est aussi très marqué par ces personnalités un peu de freaks, et que ce soit la Cité des Enfants Perdus ou Delicatessen, ou même bon, Dante, c'est encore un peu à part. Mais on a ces environnements, on va dire, qui sont artificiels. On a l'environnement, évidemment... Des personnalités de la cité, par exemple, les Enfants Perdus. Il y a une attraction, enfin, de votre côté, pour ces environnements de fêtes foraines qui sont un peu en dehors du réel, mais qui le représentent d'une certaine manière, de façon déformée, de façon grotesque, non ?
Bah, je pense que ça vient d'une histoire. Moi, c'est vrai que mes parents étaient forains, donc c'est vrai que j'ai baigné tout petit. Avec des nains, avec des gens du cirque, des manouches, tout ça. Donc c'est vrai que l'apparence n'a jamais été très importante pour moi. Je trouve qu'il y a de la beauté partout. Et c'est vrai qu'un film qui a été assez fondateur aussi pour moi, parce que je trouve que c'est une des plus belles preuves d'humanité, c'est un film comme Freaks de Todd Browning, où il y avait aussi cet amour des gens, quoi. Je veux dire, c'est pas l'apparence qui forcément fait la beauté, comme on dit. Et essayer de traduire ça après, ça vient aussi du fait que moi je viens du dessin, donc c'est vrai qu'il y a un côté graphique chez l'être humain que j'aime bien aller explorer.
Voilà. C'est intéressant de voir quand même que dans ces environnements on a un rapport à la nostalgie quand même assez fort d'une certaine manière. On est dans une sorte de rétrofuturisme, on est dans un lieu. On voit par exemple même dans un film qui parle vraiment de ça, peut-être on pourra parler, comme le film d'Alex Proyas, Dark City, qui ne parle que d'environnement reconstruit. En fin de compte, le personnage, le protagoniste, se réfugie dans un monde qu'il accepte comme étant reconstruit, mais qui est un monde, un monde de fantasmes, de Luna Park, justement.
Alors peut-être ce qui se passe, c'est que maintenant, la différence et ce qu'on appelle, entre guillemets, moi je trouve, la difformité est vraiment exclue presque de la ville et de la cité et de la société. Et alors qu'il n'y avait pas du tout ça au Moyen-Âge, et dans plein de pays, il n'y a pas cette... on cache pas ça. Donc je trouve que c'est peut-être parce qu'on a plus cette représentation quotidienne qui fait que bon, c'est notre quotidien, c'est notre naturel, qu'on est presque obligé de placer ça dans un contexte artificiel ou rétro ou quelque chose comme ça.
Très bien. Mathieu, sans vouloir philosopher trop tout de même, on est quand même dans ces mondes. Il y a un côté un peu de métafiction, en fait, me semble-t-il, hein, dans le sens où on est vraiment dans un univers où les protagonistes eux-mêmes se rendent compte en partie qu'ils sont des constructions ou qu'ils vivent dans un monde construit. Je pense à des films, par exemple, comme vous connaissez peut-être ce film qui s'appelle Westworld, qui est un parc d'attractions, c'est un magnifique film Michael Crichton de 73, je crois.
Avec Yul Brynner.
Avec Yul Brynner, qui joue dans un monde pseudo-western. Et tous les personnages, enfin, ne sont pas des nains, mais ce sont des robots. Et ils se rendent compte eux-mêmes, ils ont une espèce de crise existentielle comme ça, et évidemment, qui va les amener à se rebeller. Mais il y a ce côté de compréhension du monde dans lequel on est, d'appréhension de ce monde comme étant factice, et l'acceptation de ce monde factice.
Oui, ce qui me passionne dans les discussions qu'on a jusqu'ici, c'est cette question de la facticité, mais aussi pourquoi Lilliputia devient impossible. Enfin, il y a cette distance. Hein. Qu'est-ce qui fait... aujourd'hui, les espaces dont on parle, la parc d'attractions et Mall, c'est des espaces qui ne permettent plus ces espèces de trouées délirantes. C'est fini, l'inconscient à ciel ouvert. Et on a, à l'inverse, des espaces qui sont des espaces du contrôle extrême sur les expériences, sur les déambulations. Et il y a à la fois de l'ultra-facticité, puis elle doit se cacher comme telle. Il me semble qu'il y a une vraie affinité entre les deux espaces, celui du mall et celui du parc d'attractions. Enfin, qu'est-ce que c'est qu'un parc d'attractions ? C'est de l'expérience vendue comme marchandise, de l'expérience consommable et avec des comportements de consommateurs. Quand on va dans un parc d'attractions moderne, contemporain, il faut en avoir pour son argent, il faut en faire le maximum. Et souvent, on voit des parents qui restent jusqu'à la fin alors que les gamins sont épuisés parce qu'on a payé et on y reste. Donc, de l'expérience marketée et vendue comme marchandise. Et le mall, c'est l'exact symétrique. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un mall ? C'est de la marchandise qui se donne comme expérience ou qui se vend comme expérience et comme expérience factice, c'est-à-dire qu'on cache la dimension mercantile et marchande. Et donc, l'un est l'envers de l'autre, de la marchandise-expérience, de l'expérience-marchandise, et ils se rejoignent. C'est-à-dire, au centre du parc d'attractions, vous avez le mall, vous avez l'allée. Le mall, c'est l'allée. Vous avez l'allée marchande, donc elle est au milieu. Au centre du mall, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez le parc d'attractions, vous avez le carrousel. Voilà, il y a une conversion. Et ce qui était intéressant dans... Ce qui est fou dans cette histoire-là, en fait, c'est la manière dont ces lieux-là ont reconverti des espaces antérieurs. C'est-à-dire que le parc d'attractions, c'est plus la fête foraine, c'est plus Lilliputia, c'est plus ces lieux où il peut y avoir des trouées d'inconscients, où il peut y avoir les frics, où il peut y avoir voilà, cette espèce de rêvoir collectif qui déborde. On a des lieux de l'ultra-contrôle. Et il y a eu un vrai retournement, ça, dans l'histoire de ces espaces, l'histoire des parcs d'attractions et des malls, elles ont vraiment des points d'accroche très très fort, parce que c'est à peu près au même moment. Disneyland, c'est 55, le premier mall, d'habitude, on dit 56. Voilà, c'est la même chose, avec des structurations d'espace qui se ressemblent énormément. Voilà. Et dans l'histoire des malls, il y a aussi un grand renversement. C'est-à-dire que le mall, au départ, c'est fait par un type qui s'appelle Victor Gruen pour le Southdale Center, le premier de 56, qui est un socialiste convaincu et qui veut apporter du lien civique d'un endroit où on se rencontre, où on discute, où il peut y avoir de la politique, où il peut y avoir dans les banlieues, dans la suburbia. Il veut ramener le centre-ville européen dans la suburbia. Et ce truc-là ce lieu se retrouve complètement détourné de son usage pour avoir ces lieux absolument dystopiques là, qui sont des lieux de contrôle total. Et aujourd'hui, si on n'est pas blanc, conforme, etc., et si on traîne comme ça ou on zone dans le centre commercial, eh bien, assez vite, il y a le vigile qui apparaît. Hein.
Et sur les deux lieux, d'ailleurs, il y a un système de surveillance très, très au point. Hein. C'est vrai que tous les malls ou les parcs d'attractions sont regardés par les vigiles. Hein.
Complètement, une surveillance complète. Ouais. Et si je rajoute un tout dernier petit truc là-dessus. Parce que moi, je viens de la question des jeux vidéo. Alors, c'est un peu bizarre, pourquoi jeux vidéo et mall et parc d'attractions. Parce que d'abord, c'est des types d'espaces. Bon, hein, on peut se demander ce qui passe de ces espaces-là dans les jeux vidéo. C'est aussi un des lieux où les jeux vidéo apparaissent. C'est-à-dire, ils apparaissent dans les salles d'arcade. Ça apparaît aux États-Unis dans les centres commerciaux et dans les malls. Et ça par des gens qui viennent du monde des parcs d'attractions. Et l'idée que j'ai, là, que je voulais présenter, c'est l'idée que peut-être que cette trouée d'imaginaire, ces trouées inconscientes, ces trouées d'angoisse, eh bien, on les retrouve dans l'espace du mall, mais on les retrouve dans la salle d'arcade, c'est-à-dire ce lieu qui devient un peu inquiétant, qui devient un peu glauque, où tout d'un coup, l'espace du mall devient un espace menacé, Space Invaders, Pac-Man, etc. Il y a des fantômes, quoi. Et Pac-Man, c'est un jeu de mall. C'est un jeu d'allées. Hein, il y a ce petit personnage qui bouffe tout ce qu'il peut trouver dans des allées, bon, qui sont les allées du centre commercial. Et il y a des fantômes là-dedans. Voilà. Donc, peut-être que ça... c'est des dispositifs de jeu qui font ressurgir les fantômes dans ces espaces balisés.
Et alors, il y a un truc, moi, qui m'intéresse aussi, parce que je l'ai vu à travers les parcs d'attractions, et un des plus grands parcs d'attractions, c'est aussi Las Vegas, et c'est les malls aussi, c'est qu'il y a ce côté décor presque de cinéma, avec des patines, mais des patines propres, des genres de choses qui sont faites comme si elles étaient un peu usées, et des, tu vois, on essaye de donner une certaine vernis d'authenticité à des trucs qui sont quand même moulés, enfin qui sont... faux, factice, pas plus factice
oui,
que ça.
Oui, il y a justement cette forme de d'artificialité assumée. C'est comme le fait de c'est comme si on supprimait le quatrième mur d'une certaine manière.
Tout à fait.
Je vais rebondir sur tout ce qui a été dit. Le fait est qu'on peut vivre ce genre d'espace et le lien entre la ville et Disney à Disneyland Paris. Autour de Disneyland, quand ils sont installés, ils ont construit des villes pour les gens qui allaient travailler dans le parc. Et il se trouve que je connais une de ces villes juste à côté qui est une implantation d'une ville américaine. Ils ont construit un mall gigantesque sur 3 ou 4 niveaux avec un aquarium dedans. Et au bout, en fait, de la galerie marchande, il y a une fausse rue. C'est une rue, on passe par une barrière, il est interdit d'y fumer, d'avoir un chien, de prendre des photos. Ce sont des maisons à la française factices. Quand on rentre, on se rend compte que c'est des structures légères. Et en fait, c'est un magasin de Marc Desgriffet qui imite une rue. Et si vous voulez savoir ce que c'est que se sentir dans le Truman Show à la fin du film, il suffit d'aller se balader là-bas. C'est assez effrayant. Et ça me fait penser que, en fait, Dreamland, c'est aussi un des laboratoires de l'espace américain. Disney, aujourd'hui, est un des plus grands propriétaires terriens aux États-Unis. On a des villes Disney, parce qu'ils savent très bien qu'ils ont beaucoup plus de terrain que ce qu'ils pourront jamais couvrir avec du parc d'attractions.
On se souvient que Walt Disney, justement, voulait créer une cité utopique juste avant sa mort.
Et elles ont été créées et on a ce genre de choses, et ce qui est très étonnant dans la ville justement qui est autour, son nom m'échappe toujours, soit c'est Val d'Europe, quelque chose comme ça, c'est qu'il y a des fausses façades par endroit. On a des petites, qui ne sont pas des ruelles et des passages que seuls les gens connaissent, on se rend compte qu'il y a des fausses façades de l'extérieur, on n'est pas dans le parc, on est dans la ville.
Il y a l'analyse de Baudrillard qui est très intéressante sur Los Angeles, où il dit que dans Los Angeles, qui est une vraie ville, il y a des faux enfants, des gangs qui ne se comportent pas comme des enfants, qui se tuent, qui ont des armes, etc. Et donc les vrais enfants dans la fausse ville au comportement faux est entourée, la ville, de fausses villes avec des fausses valeurs et des fausses existences, où l'on emmène les vrais enfants pour leur faire croire que c'est les vraies valeurs. Comme si les parcs d'attraction étaient une sorte de mur d'enceinte autour de Los Angeles pour contenir les Chicanos, puisque la plupart des enfants ne sont pas WASP, se massacrer entre eux en étant des enfants qui ne se comportent pas comme des enfants, et de manière à éduquer correctement les enfants WASP dans un monde faux, mais censé porter les vraies valeurs.
Pour votre bibliographie, je vous recommande aussi, en plus de Baudrillard, le livre de Mike Davis, City of Quartz, qui a travaillé aussi beaucoup sur Blade Runner et qui parle justement de cette création de deux espaces, en tout cas, à Los Angeles, l'espace justement des malls et, du downtown qui est coupé de la vraie vie.
Et alors, un des meilleurs livres sur Mike Davis de sciences humaines de ces 20 dernières années, cette géographie.
Alors, une autre similitude qu'on remarque sur ces différents lieux, c'est qu'il y a aussi une extériorisation de la bande-son. C'est-à-dire que tous ces lieux-là sont très... Il y a des musiques d'ameublement presque, d'ascenseurs, il y a des appels. Très vite, on se croirait revenu dans ce merveilleux feuilleton qui était le prisonnier, quoi, avec tout va bien.
Qui d'ailleurs se fait dans une ville, qui a été fait à Port Marion, dans ce village qui est une sorte de village de parc d'attraction également. Quoi.
Mais qui est vrai.
Mais qui est vrai.
Et techniquement, le mall, c'est la clôture. Et d'abord, quand on dit Southdale, le mall de Southdale en 56, c'est la climatisation qui fait la rupture technologique. C'est-à-dire que ça assure une certaine autonomie climatique par rapport à l'extérieur et ça fabrique ce lieu qui peut être fermé. Et à l'intérieur des malls, il y a vraiment une structure spatiale qui se répète un peu partout avec des polarités. D'un côté, le monde de la nature, comme ça, pseudo-sauvage. qui est une manière de réécrire aussi l'histoire américaine, puisqu'on peut voir passer des Indiens. Là, ils sont tout gentils, ils n'ont pas été massacrés. Voilà, c'est une manière de réécrire l'histoire. On a à côté du monde de la nature sauvage, on a le monde de la ville. Et puis, on a le monde des nouvelles technologies en général. Il y a une partie comme ça. Et puis, le monde des vieilles technos. Avec les patines rustiques. Donc l'espace est centré comme ça sur toute une série de mythes dans la création du môle.
Et en fait, si on prend dans l'histoire de la SF, l'œuvre de Dick, cette idée du faux-faux, enfin, du déplacement.
À quelques kilomètres de Disneyland.
Mais oui, mais en fait, et c'est une date hyper importante pour lui. Hein. D'ailleurs, à l'époque, le journaliste qui a annoncé l'ouverture de Disneyland, c'était le jeune Ronald Reagan, qui travaillait encore à la télé à ce moment-là. Et en fait, sa conception, tout ce qui nourrit son œuvre, on commence à le lire, en fait, avant qu'il se consacre à la SF, dans les confessions d'un artiste de merde, dans Confessions d'un Barjot, en français, La première chose qu'il voit, c'est que tout est organisé autour d'une maison. C'est une maison, une architecture moderniste qui ne fonctionne pas là où elle est. C'est des grandes baies vitrées, ils n'arrivent jamais à chauffer. C'est un béton qui maintient l'humidité, tout va pas. Et il y a toute une génération d'auteurs qui voient dans les années 50 la Californie, le drapeau de la Californie, il y a un grizzly dessus. Et ils voient en l'espace de 20 ans un pays qui est encore extrêmement rural se recouvrir à toute vitesse de constructions. Qui vont de plus en plus vite avec énormément de plastique, de fausses façades, de choses, et cette espèce de choc en fait de transformation et d'occupation de l'espace par quelque chose qui est à la fois quelque chose de vrai avec des vrais gens mais qui est manifestement faux, c'est une des bases en fait pour lui qui va lui faire réfléchir à une œuvre qui va dépasser justement les catégories du vrai et du faux.
C'est sûr que dans Total Recall par exemple ou dans d'autres ouvrages, dans d'autres nouvelles, il y a cette acceptation en fait de vivre dans le faux et cette volonté de dire que le faux est tout aussi intéressant, voire plus intéressant puisqu'on peut le manipuler, puisqu'on peut le construire.
Alors, ce qui serait intéressant, c'est de savoir la connexion entre le début et l'état qui vient d'être fait. Comment on passe d'une ville factice avec des monstres, avec une ville considérée comme vraie et de vrais gens. Parce qu'il ne semble pas y avoir de coupure. Tu parles de la Californie qui s'étend progressivement, mais qu'est-ce qui l'a permis ? Il y a un élément qui me semble intéressant, c'est le travail qu'a fait le sociologue allemand Georg Simmel en 1908 dans un ouvrage qui s'appelle Les grandes villes et la ville d'esprit. Et Simmel lutte dans son travail contre la prédominance de la valeur argent, de le fait que la morale est supplantée progressivement par la valeur morale par la valeur financière. Bon, donc il travaille sur ça et il va écrire un tout petit traité qui anticipe Guy Debord, la psychogéographie et compagnie, où il montre que quand on est dans une ville, c'est créé en 1908, hein, quand on est dans une ville, tout le rapport au corps et aux autres change instantanément. Il prend comme exemple le campagnard allemand dont le regard a une vitesse de déplacement qui devient routinière. C'est celle qui est axée sur son troupeau, sur son chien, ou la mère sur l'enfant qui suit tel chemin, etc. Et ces visionnaires, ils montrent que les mêmes Allemands déplacés dans Berlin, par exemple, vont perdre en fixation du regard pour une hyper-rapidité qui est en fait axé sur les vitrines des magasins sur lesquels on se reflète, donc on devient 1908, hein, spectateur de soi, et notamment sur toute une batterie de sons qui sont des sons artificiels, automobiles, etc., et qui fait qu'on assiste de plus en plus à une théâtralisation de l'homme de la ville. Alors, ce qui est marrant, c'est que Simmel écrit ça pour le dénoncer. Le bouquin arrive à New York, dans le célèbre club des architectes où il y a les grands noms de l'époque comme notamment l'auteur qui met Ham, l'auteur de l'architecte du Flatiron, et qui vont se dire mais c'est génial, voilà un traité, un manuel pour ordonner, pour structurer le comportement de l'homme en ville, et ça a été appliqué au pied de la lettre, mais à l'envers, c'est-à-dire il va falloir utiliser les vitrines, les néons, la vitesse de déplacement d'une automobile et le son pour diriger tel type d'habitants. Il faut mélanger les classes sociales de manière à avoir un comportement médiocre, un comportement moyen, qui ne soit pas ceux des riches et ceux des pauvres. Et je pense que c'est peut-être par ce genre de choses qu'on passe d'un spectacle dans un endroit donné comme spectacle Dreamland à le mall, la ville, Disney, etc.
Il y a le fait que ce soit un environnement extrêmement contraint aussi, hein, dans lequel on est limité dans son mouvement, dans lequel on est obligé aussi, on l'a dit, de consommer. Hein, et l'idée du parc d'attraction, on le voit même chez Bradbury, par exemple, ou du cirque, hein, puisque le cirque est quand même en lien avec ça, c'est ce côté d'environnement totalement clos dans lequel on sait qu'on est ressorti à un moment, quoi. Et aujourd'hui, peut-être, la difficulté, c'est le fait qu'on ne sait jamais véritablement quand est-ce qu'on est sorti de cet environnement-là, quoi.
Effectivement, parce que on parle du môle, mais c'est aussi peut-être une forme en déclin, après tout. Hein. Je crois que le nombre d'ouvertures de môles décroît régulièrement, qu'il n'y a plus que les plus gros qui arrivent à s'en sortir, c'est-à-dire les môles super régionaux.
En même temps, il y a une génération d'hypramôles qui est en train d'arriver. Ouais. Là, donc en fait,
il faut monter en gamme pour continuer à être dans le spectaculaire et attirer le chaland.
Et avec énormément dans les projets contemporains, ça va commencer d'ici quelques années, là, mais on fait un cran plus loin vers l'intégration de la nature, avec intégration de pistes de ski, de zoos, de l'architecture biomimétique. Ouais. Extrêmement cher, et à l'intérieur on fait n'importe quoi. On y va, quoi. On fait pas de clim, on fait une piste enneigée.
On peut se demander d'ailleurs ces environnements comme à Singapour par exemple, où on voit les arbres artificiels qui sont à l'extérieur, on est dans un môle à ciel ouvert. Enfin, la différence entre, enfin, on ne sait plus justement si on est encore à l'intérieur ou à l'extérieur.
On brouille les limites, et puis le môle se répand aussi dans la ville. C'est-à-dire que c'est devenu le modèle pour façonner les espaces commerciaux qui ont été repris en général en centre-ville, sur les friches, etc.
Le passage Pommeraye.
Ouais. À un certain niveau, c'est presque de la gestion de flux, hein, parce que c'est comme dans les supermarchés, tout ça. On varie les produits pour attirer suivant des études statistiques, etc.
Il y a un pas particulier dans le mall. C'est-à-dire que l'espace est fait. Leur problème, c'est quoi au concepteur de mall? C'est de vous faire passer le plus de temps possible dans le lieu. Et ça, c'est un problème à la fois. C'est d'abord un problème de gestion d'espace, c'est-à-dire qu'il y a plein d'obstacles. C'est fait exprès pour qu'on soit passe dans un pas de flânerie. On doit contourner en permanence des obstacles, donc ça c'est pensé pour. Et les obstacles, c'est pas simplement un obstacle matériel comme ça qui fait qu'on y passe plus de temps, c'est que ça nous met dans un état particulier, un état second, un état de mall, c'est-à-dire cette espèce d'état de flânerie où on était venu pour 20 minutes et on y passe 2 heures. Et à l'intérieur, les frontières sont brouillées, c'est-à-dire que certaines boutiques sont très bien délimitées, mais d'autres sont ouvertes sur l'espace intérieur, donc on ne sait plus si on est dedans la boutique, dans la marchandise ou pas. Et il y a vraiment la volonté de produire un état particulier.
Je pense qu'ils se sont fait aider de gens comme de spécialistes comme à Las Vegas qui, par exemple, au niveau de l'éclairage, à plein de niveaux, on oublie l'environnement extérieur, etc.
Mais Las Vegas, c'est pour moi, il y a un philosophe bordelais d'ailleurs qui travaille beaucoup sur ces questions, qui a notamment écrit Zéro Police sur Las Vegas et récemment Le Parc, qui travaille sur ces questions-là et qui. Il analyse Las Vegas dans Zéro Police en montrant simplement que Las Vegas, c'est en concentré tout ce qu'on a dit. C'est la ville qui croît le plus vite actuellement aux États-Unis. C'est une ville d'une croissance phénoménale. C'est une ville qui n'existe que parce qu'on a fait le Hoover Dam, c'est-à-dire qu'on a réussi à, en gros, faire un barrage sur le fleuve qui a creusé le Grand Canyon. C'est quand même pas rien, je veux dire, le lac de rétention a enfoncé la croûte terrestre de 2-3 centimètres. On est dans du réel, mais en même temps, l'ensemble est totalement factice. Tout est factice à Las Vegas. Ce n'est qu'un produit, on produit une expérience de vie très très particulière qui ne repose donc que sur des technologies. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où on parlait justement de ce phénomène d'artificialisation de l'espace aux États-Unis, c'est Hunter Thompson, quand il écrit Fear and Loathing Las Vegas, donc Las Vegas Parano, il va chercher le rêve américain dans tout ce qu'il a de factice, d'hypnotique, d'entraînant et de malsain. Où est-ce qu'il place le centre névralgique de ce mouvement, justement, qui est à la fois un mouvement centripète qui va aspirer les gens à l'intérieur? Il le place dans un carrousel au centre de Las Vegas. C'est là qu'il va. Et effectivement, on retrouve tous ces éléments-là dans cette conception de Las Vegas.
On retrouve les mêmes sons, les mêmes styles de lumière qui fliquent comme ça, stroboscopiques, etc. Et aussi dans les pachinko au Japon, etc. On sent que c'est la même technologie qui est utilisée.
Ce qui sera intéressant, c'est dans 1000 ans, les ruines de Las Vegas qui seront confondues avec Paris. On ne saura plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Ça va être sublime.
C'est des dispositifs de ce qu'on appelle de technotrans, hein. C'est-à-dire que c'est fait pour induire des états seconds et des états de conscience modifiés. Et c'est en même temps, avec deux potentiels, c'est ça, comme le cinéma. Et bon, les effets de clignotement, le rapport au son et tout ça joue, les jeux vidéo.
Et ce qui est, pardon, Ce qui est amusant, c'est que tout ça joue évidemment sur le comportement. Et Baudrillard, à nouveau, s'était intéressé au mall, on y revient. Hein, et il montrait qu'une famille dans un mall est complètement perdue, privée de tout libre arbitre ou de recul ou de réflexion littéralement sur son environnement, et on revient à un état de totale primitivité. Une famille dans un mall ou même dans un hypermarché se déplace comme un clan préhistorique. Donc il y a le mâle qui est, enfin, la femelle garde les possessions, le caddie, madame est au caddie. Le mâle envoie ses troupes, les enfants, qui sont des espèces de scouts, de pisteurs qui se perdent dans les allées, qu'on siffle de temps en temps, comme maintenant on appelle au téléphone, qui repèrent la nourriture, puis on fonce, on attaque, on tue le mammouth, donc on va chercher la viande surgelée. Et comme Baudrillard rit, mais je crois qu'en même temps il est sérieux, et comme on est une espèce de joie d'avoir enfin toutes les possessions, ben on va manger sur place, on va éventrer le mammouth et s'en taper une tranche avant de repartir, et on mange dans la pizzeria ou dans le McDo du mall.
Mais en fait, ces environnements qui sont très riches quand même en support imaginaire, ils sont presque redondants pour la science-fiction. On voit qu'ils sont quand même assez peu utilisés, hein, d'une certaine manière. Enfin, ils deviennent assez vite clichés. Hein. Il y a quelques images très fortes de forains, on en a parlé. Hein. Je pense que, Marc Haro, vous avez vraiment cristallisé en fait, ces images-là dans vos films et dans votre esthétique. Mais depuis, il n'y a pas vraiment eu un renouvellement important. Les parcs d'attraction dans les films de science-fiction eux-mêmes sont assez peu présents. On connaît Jurassic Park, par exemple. Voilà, on sait que c'est une espèce de motif narratif. Ce qui est intéressant, peut-être, dans certains ouvrages des gens qui ont suivi Dick, comme K.W. Jeter, par exemple, qui a fait des projets où, quand il a écrit la suite de Blade Runner, eh bien, dans Blade Runner 2 et dans Blade Runner 3, surtout, il y a une espèce de mise en abîme totalement délirante où les personnages principaux et les réplicants se retrouvent sur le tournage du film de Blade Runner, en fait. Et c'est que ça devient une espèce de réplication. Et lieu de tournage qui va, en fin de compte, devenir un parc d'attraction lui-même. Quoi.
Alors, moi, il y a un autre petit truc qui m'a étonné, c'est qu'il y a des grands malls aussi au Japon. Et les parcs d'attraction, tout ça, il y a toujours eu une tradition d'automates. Hein, les Disneyland et tout ça, ça a été quand même peuplé d'automates ou de personnages déguisés en personnages artificiels.
Dont des nains qui jouaient les automates.
Voilà, tout à fait, oui. Et au moins 7 à Disney. Et au Japon, ils commencent à mettre. Moi, j'étais filmé dans un des grands malls à Tokyo où ceux qui s'occupent de la surveillance, c'est des robots qui sont à roulette et qui font. C'est presque des caméras robots qui font le tour du mall comme ça pour surveiller, pour regarder. Ils ont des systèmes de reconnaissance de visage si ça ne correspond pas. Voilà, non, c'est assez fou. Hein. La police, c'est pas encore Robocop, mais ça arrive tranquillement.
Au cinéma, il y a eu récemment une représentation géniale de la société complète comme mall et comme expérience totale. C'est dans Wall-E, c'est l'Axiom. Avec en plus, on est vraiment dans cette logique, on va la pousser dans une espèce d'utopie. En fait, voilà, c'est le vaisseau entièrement automatisé dans lequel l'expérience utilisateur est absolument constante, où on a le moins d'efforts à faire, où on a, il n'y a plus de déplacement physique, il n'y a plus besoin, tout est complètement balisé. La publicité est juste au niveau du visage et c'est un monde. C'est un monde mall, vraiment.
Oui, j'ai l'impression que ça sert aussi comme thème. Enfin, le mall ou le parc d'attractions arrive, comme tu disais au début, c'est-à-dire par le rétro-futur ou par la déréliction ou par le post-apocalyptique où on voit ces lieux-là détruits. Et tout d'un coup, là, à ce moment-là, ils se rouvrent et la dimension de clôture et de contrôle disparaît. Je pense évidemment au film de zombies dans lequel tout d'un coup, là, le mall est ravagé par ses utilisateurs normaux en état zombifié. Voilà. Donc ils redeviennent, ils récupèrent un potentiel critique qui était celui sans doute des anciennes fêtes foraines, etc., à partir du moment où tous les dispositifs de contrôle pètent et partent dans tous les sens.
Et puis une des choses sur laquelle une énorme partie de la science-fiction contre-culturelle va réagir, c'est le lien qu'il y a justement entre le développement économique, entre le développement de ces espaces factices, entre l'inquiétude qu'il y a à ne pas savoir de quel côté on est de la barrière. Il y a Terry Gilliam notamment, quand il était jeune, qui était encore à Los Angeles, qui s'est retrouvé refoulé par la police devant des barbelés alors qu'il voulait rentrer justement à Disneyland. Un truc qu'on a très simplement actuellement, il y a eu une campagne McDo il y a quelques années, le thème c'était « Venez comme vous êtes ». Alors vous venez comme vous êtes, mais vous avez les cheveux courts, vous êtes rasé, vous avez enlevé vos bijoux, etc. Et on avait un ensemble de gens, on avait un espèce d'assemblage complètement politiquement correct, de gens totalement standardisés, mais avec le slogan qui est exactement l'inverse de ce qu'on voyait à l'image. Et on est dans cette confusion totale des catégories, dedans, dehors, enfermés ou pas.
Dans les confusions de catégories, il y avait justement dans Dreamland, avant de bâtir les parcs, il a fallu nettoyer l'île. Parce que c'était un mouroir
à Coney Island.
Coney Island était notamment une sorte de zone neutre de plaisir, d'amusement avant l'établissement du parc pour les fameux gangs de New York, notamment les Dead Rabbits et les Swamp Angels. Et comme l'un des deux propriétaires de Dreamland était le gouverneur Reynolds, démocrate, ils ont tous été revirginisés. On leur a donné une vareuse bleue, une casquette bleue, une matraque. Ils sont devenus la police du parc.
Très bien. Il nous reste une dizaine de minutes. Je vais peut-être ouvrir à quelques questions de l'assistance. S'il y a un micro qui se balade, il arrive. On va attendre le micro puisque c'est enregistré, je crois. Donc, comme ça, on a tout ça sur.
Bonjour. Hop là. Il y a quelque chose que vous n'avez pas beaucoup mentionné. Enfin, j'ai raté 10 minutes, donc je suis peut-être passé à côté, mais j'ai quand même l'impression que dans beaucoup de représentations, notamment en littérature, le mall ou le parc d'attractions, c'est aussi un lieu de danger. C'est-à-dire qu'en façade, aux visiteurs, on montre quelque chose de parfait, mais il y a toujours une présence menaçante derrière. Vous citiez Wally, il y a cet ordinateur qui contrôle tout et qui est à moitié fou. Moi, j'ai souvenir de Choke, de Chuck Palahniuk, où on a un parc à thème sur les pèlerins d'Amérique, et on a un passage en revue de tous les employés qui passent leur temps à se droguer, chacun avec leur drogue propre. On voit bien qu'il y a quelque chose de très déviant, et c'est aussi souvent, j'ai l'impression, l'occasion pour les auteurs de montrer que derrière cette image de perfection, il y a forcément quelque chose qui déraille.
C'est un espace de contrôle, hein, quand même. Donc c'est l'idée, je crois, où il y a une entité ou un groupe qui contrôle généralement. Et ça vient déjà, on l'a mentionné Bradbury, hein, avec Something Wicked This Way Comes, qui est déjà, en fait, la représentation de quelque chose de terrifiant derrière cette façade un peu de paillettes.
Et d'une manière générale, enfin, effectivement, le mot en tant que cristallisation, de matérialisation, en gros, du mensonge ou du caractère factice d'un système et du système consumériste qui nous vendent, et du débordement, justement, inquiétant entre cette logique où l'être n'est qu'un maillon dont on contrôle les mouvements, etc. C'est un lieu privilégié, je veux dire, pour beaucoup d'auteurs, dont Chuck Palahniuk, dont toute l'œuvre, en fait, est sur le caractère factice de la civilisation ouest-américaine. C'est un lieu privilégié pour, justement, aller révéler l'envers du décor, parce que, justement, c'est un décor.
On peut parler aussi de Bret Easton Ellis. Hein.
Ou de Days de Lovegrove, qui se passe intégralement dans un Uber Mall pendant une journée, et où on en arrive à la situation absurde où le rayon livre, qui sont les sacrifiés, ils vont tous crever rapidement. Le rayon livre entreprend des stratégies, mais de guerre pour survivre au rayon Ifi, qui sont considérés comme des nationalistes qui vont leur bouffer leur territoire, et ça finit en violence physique.
Il y a même un des opus du flic de Beverly Hills qui se passe dans un truc. C'est devenu très grand public.
Il y avait une autre question là.
Dans quelle mesure les cités fertiles et les smart buildings de notre architecte visionnaire et co-responsable, c'est un petit peu la nouvelle forme de mall avec les dispositifs de contrôle, de la transparence, des comportements induits par l'architecture, etc.
Je crois que ce qu'on peut dire, en tout cas historiquement, ce qui est intéressant, c'est que le jardin, c'est la représentation d'un monde à l'état miniature. Même, ne serait-ce que le jardin des plantes ici à Nantes, c'est un environnement totalement artificiel, puisqu'il a, contrairement à ce qu'on peut imaginer, hein, il reproduit un environnement avec des plantes qui viennent du monde entier à peu de choses près. Donc il y a déjà cette tradition-là. Du fait de. Enfin, c'est pas parce que ça a l'air naturel que ça l'est.
Oh, pour répondre assez vite, en fait, là, on mélange un peu deux choses, pour être honnête. Le mall, tel que là, on en parle, c'est-à-dire que le mall comme point de cristallisation d'un univers factif, etc., il se comprend que dans l'architecture spatiale et ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire le mall au cœur de la ville, comme point central où sont censés converger ou passer tous les êtres avec tous les dispositifs de contrôle. Ce que fait notre architecte, ce que fait Vincent Calbeau ou autre, ne joue pas à la même échelle. Je veux dire, lui a une démarche d'architecte de bâtiment, on va dire, qui s'intègre dans un environnement global, sans, en nous permettant en fait de fonctionner sans créer de déchets. On en a parlé tout à l'heure, on est... Lui n'est pas dans une démarche d'organisation urbanistique qui elle-même a un caractère complètement idéologique. Je pense avoir répondu.
Ouais. Il y avait quelqu'un d'autre. Vous voulez rebondir sur ça ?
Non, peut-être effectivement, juste pour rebondir un tout petit mot, la question de l'alliance entre nature et technique, c'est une des données centrales de l'organisation spatiale des malls et des parcs d'attractions depuis le début. Donc là, on se retrouve sur cette polarité là, qui est assez largement mythique, hein, qui propose une sorte de réconciliation mythique entre nature et technique. Donc là, il y a une filiation dans les types d'espaces et dans les manières de les construire.
En même temps, c'est une... enfin, l'idée de réconcilier la nature et la technique, ça démarre en moins 4000 avant Jésus-Christ, quand on commence à mettre des jardins au-dessus des ziggourats en Mésopotamie. Donc, y voir un parallèle, oui, mais c'est une constante de la construction humaine, en fait. Il n'y a à peu près qu'au XXe siècle, à partir du moment où on a fait de l'acier et béton, qu'on a oublié qu'à la base, un bâtiment devrait s'intégrer à son environnement sans s'y opposer de manière frontale.
Avec un rapport entre nature et technique qui est transformé à ce moment-là et qui fait que ça peut être pensé comme des polarités opposées, ce qui n'était pas le cas.
On est d'accord que nature et technique, on rentre dans un débat philosophique qui a quelques milliers d'années, qu'on ne va pas réussir à résoudre là, direct, en table ronde. C'est con, on aimerait bien.
Bonsoir. Alors, vous parliez donc du retrait des mâles qui deviennent de plus en plus obsolètes et le parc d'attractions aussi qui, avec l'âge, devient de moins en moins intéressant. Mais est-ce que le jeu vidéo, en fait, ça serait pas l'avenir de ces mâles et de ces parcs d'attractions ? Donc, quelque chose de très régulé, de très factice, en fait.
Ce qui est intéressant, mais Mathieu va nous en parler, c'est le fait que ce soit peut-être une déconstruction de ces espaces, en tout cas la création d'un autre espace.
En tout cas, il y a une des choses qui m'a intéressé à étudier, c'est les effets de structure. Super Mario Bros. Est organisé, voilà un jeu vidéo qui est organisé explicitement, expressément, comme un parc d'attractions et dont Disneyland est le modèle. On passe, du pays vert au pays des dunes, etc., etc. Donc il y a ce genre de parcours spatial, il a servi de modèle pour les jeux vidéo. Après, comme je suis plutôt optimiste de nature, je me dis que dans les jeux vidéo, il y a moyen de travailler cette question de l'espace des malls et de l'espace du contrôle. D'abord, c'est aussi des parcours extrêmement contraints, les jeux vidéo. Sauf qu'on peut en faire quelque chose, on peut les questionner. C'est une forme culturelle. Et là, il y a la possibilité d'avoir une critique de ces espaces-là, en acte, hein, dans le fait de jouer. Donc, de retrouver, d'étrouer au-delà du contrôle et de mettre en question ces espaces.
Encore une question, peut-être à nos invités. Il nous reste... 2 minutes, une question. Ah non, mais vous avez répondu à tout. Mais moi, j'ai une question, en fait, encore. Quelle différence, alors, peut-être, entre autres, dans l'œuvre de Philippe Dick, ou des écrivains de science-fiction, simplement, entre ces mondes-là et les mondes artificiels, et le fait de vouloir faire des mondes, on va dire, qui sont simplement parallèles. Pourquoi choisir les mondes clairement factices ? Au niveau, on va dire, purement de la création d'une histoire. Qu'est-ce que ça amène ?
Il reste 1 minute 30, là, c'est ça ?
Oui.
Ça peut se rejoindre. Ça peut se rejoindre. Après, on fait pas exactement la même chose. On lit pas du tout le même type de livre. J'ai même tendance à dire qu'on va pas lire le même genre de livre. Quand on lit un livre de Dick dans lequel la réalité a l'air complètement quotidienne, alors qu'on sait que c'est de la science-fiction, qu'on découvre au fur et à mesure en fait que les catégories même du réel ou de la fiction sont que ça devient complètement indécidable. On est quand même dans un type de récit ou de construction du monde ou de réflexion qui va être complètement différent d'envisager, je veux dire, des mondes qui sont entièrement factices. Voyons voir. Xavier. Elle est hyper vaste comme question. Pour moi, on est sur des genres totalement différents. Dick est aux marges de la SF à ce niveau-là. Il part de son doute sur la véracité même du monde qu'il voit. Mais ça peut se rejoindre. Si on lit Simulacron 3 de Daniel Gallou, ça se rejoint.
Je pensais justement à cet ouvrage-là.
Je pense que, en fait, on s'achemine gentiment vers la prochaine table ronde parce que. C'est remarquable. On voit que c'était répété de 3h à 4h30 du matin, ici même, avec les bons éclairages. Mais on peut même parler de. J'espère qu'on en parlera. De l'influence. Ce que certains penseurs appellent les neurones miroirs, c'est-à-dire le fait de maintenant calquer son comportement et de modifier son comportement en fonction des jeux, de ce qu'il y a dans l'écran. La bonne vieille séparation rassurante entre réel et virtuel, elle a vécu. Donc les autres mondes, et on arrive à la fin, les autres mondes commencent ici même.
Bien, je crois qu'on va terminer par cette belle affirmation. Merci à tous nos intervenants. Merci à vous d'être venus. Et à bientôt pour la suite.